Bonjour à tous, à tous ceux que j'ai pas encore salués et à ceux que j'ai déjà vus. Ça ne dérange pas de saluer plusieurs fois. Alors, je vais vous distribuer des feuilles et puis vous allez comprendre pourquoi. Je vais les mettre là devant sur la table, vous viendrez vous servir ou quelqu'un les distribuera. Ah, il n'y en a pas beaucoup, j'ai préparé une dizaine seulement, c'est pas un chacun. Hein. Donc quand on est en période de vacances scolaires, qu'est-ce qui se passe avec nos enfants? On leur achète des cahiers de vacances pour qu'ils puissent les remplir et qu'ils ne perdent pas ce qu'ils ont acquis durant l'année scolaire. Alors, en préparant ce message, j'ai même trouvé des cahiers de vacances chrétiens. Je n'ai pas acheté, mais ce matin, je vous propose de faire nos devoirs de vacances pour démarrer ce temps de méditation avec un petit quiz. Donc, je vous propose de vous regrouper par 3 ou 4, si vous le souhaitez, pour répondre aux différentes questions que j'ai préparées à votre intention. Ça y est, vous êtes regroupés, vous êtes avec quelqu'un, vous allez pouvoir travailler ensemble. Alors allons-y. Pour ceux qui n'ont pas de feuilles, vous pouvez lire ce qui est affiché. J'espère que vous pouvez lire, que c'est assez gros pour vous, mais je veux lire les questions quand même. Donc vous répondez au fur et à mesure sur la feuille pour qu'on ne perde pas de temps. Pourquoi est-ce qu'on parle de petits prophètes par rapport à certains auteurs bibliques? Réponse A, parce qu'on a pu démontrer qu'ils étaient de petite taille. Réponse B, parce que leurs prophéties sont moins importantes que celles des autres prophètes. Réponse C, le nombre de chapitres de leurs prophéties est plus petit que pour d'autres livres de la Bible. Deuxième question. Combien de petits prophètes sont-ils présents dans la Bible? Réponse A, 7. Réponse B, 12. Réponse C, 10. Troisième question. Le premier livre de ce qu'on appelle les petits prophètes, hein, je vous ai mis à chaque fois entre guillemets, c'est Abdias, Osée ou Ésaïe. Quatrième question, le dernier livre des petits prophètes, c'est Abdias, Michée ou Malachi? Question 5, l'ordre du canon biblique respecte l'ordre chronologique de la vie des prophètes, c'est-à-dire l'ordre dans lequel on a les petits prophètes présents dans nos Bibles. Est-ce que ça respecte l'ordre chronologique? Donc oui ou non, il n'y a pas tellement d'autres choix pour la réponse. Question 6, quels sont les 3 petits prophètes qui ont prophétisé à la même période que Jérémie? Donc ça, selon moi, c'est la question difficile. Mais peut-être que vous avez déjà trouvé d'autres questions difficiles avant. Donc, réponse A, Amos, Osée, Michée. Réponse B, Amos, Sophonie, Agée. Réponse C, Sophonie, Nahum, Habacuc. 7e question. Dieu a-t-il obligé Osée à épouser une veuve, une vierge ou une femme adultère? Les 3 dernières questions. Quelle expression est plus utilisée par Sophonie que par les autres prophètes? Joie de l'Éternel, l'Éternel est grand, jour de l'Éternel. Question 9. Que signifie Nahum? Celui qui condamne, celui qui a compassion ou celui qui gémit? Et enfin, la dernière question. Malachi, qui est le dernier livre de l'Ancien Testament, est bien à sa place car il est le seul livre qui annonce la venue de Jésus-Christ. Il est la dernière prophétie chronologiquement dans l'histoire d'Israël, ou bien parce que son nom signifie « le dernier messager ». Voilà. Donc, si vous lisez votre Bible régulièrement dans l'année, Ce petit quiz vous permet de mettre vos connaissances à jour et de ne pas les perdre. Je vais vous donner les réponses quand même. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle des petits prophètes, hein, qui a une idée ? C'est le nombre de chapitres de leur prophétie est plus petit que pour d'autres livres de la Bible. C'est exact. Vous avez bien répondu. Combien est-ce qu'il y a de petits prophètes ? Vous voulez que je revienne, d'accord ? Voilà. Combien est-ce qu'il y a de petits prophètes dans la Bible, selon vous ? Qui a dit 12 ? Ok, c'est la bonne réponse. Je ne vous ai pas demandé de les citer, je vais le faire pour vous. Donc c'est dans l'ordre de la Bible, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habacuc, Sophonie, Agée, Zacharie et Malachie. Alors, vous pouvez maintenant répondre à la question 3. Le premier livre des petits prophètes, c'est... Je viens de le dire, hein. Osée. Le dernier livre, c'est... Malachie, c'est même repris dans la dernière question. Donc, quand on est un peu futé dans les cahiers de vacances, on trouve les réponses dans l'ensemble des questions. L'ordre du canon biblique, est-ce que ça respecte l'ordre chronologique ? Non. Par exemple, Jonas a vécu et prophétisé avant Osée. Pourtant, c'est Osée, le premier livre des petits prophètes. La question difficile, quels sont les trois petits prophètes qui ont prophétisé en même temps que Jérémie ? Est-ce que vous le savez ? Pardon, qui a dit c'est ? Ben c'est ça. C'est Sophonie, Nahum et Habacuc qui étaient prophètes en même temps que Jérémie. Dieu a obligé Osée à épouser une femme adultère, effectivement. Donc, quelle est l'expression la plus utilisée par Sophonie ? Il y a un piège, donc... Qui a dit c'est ? Encore ? Mais tu connais toutes les réponses. C'est jour de l'Éternel. Alors, joie de l'Éternel, c'était le piège parce qu'il y a un verset qui parle de la joie du... Je fais la joie du Seigneur. Ensuite, question 9. Que signifie Nahum ? Qui a dit B ? Qui a dit B ? Il se cache là-bas derrière son pupitre. Oui, c'est celui qui a compassion, Nahum. Chaque nom de prophète a une signification en rapport avec son ministère ou pas d'ailleurs. Et enfin, Malachie est à sa place parce que, réponse quoi ? C'est, vous avez dit ? Eh bien, c'est un piège. Non, c'est réponse B. C'est la dernière prophétie vraiment chronologiquement dans l'histoire d'Israël. Après Malachie, il n'y a pas eu d'autres prophètes... qui soit noté dans la Bible, qui est prophétisé. Et le piège, c'est que Malachie, ça signifie messager et pas dernier messager. Voilà. Alors, qui a su répondre à toutes les questions ? Je vous avoue que si je n'avais pas étudié le sujet, je n'aurais pas su. Hein. Donc, n'ayez pas honte. Qui a su répondre à 9 questions ? 8 questions ? Bravo ! 7 ? Ouais, super. Bon, il n'y a rien à gagner, donc c'est pas grave. Oui. En tout cas, voilà, c'était aussi parce qu'on est en vacances, une façon de s'interroger sur la Bible d'une façon un peu ludique. Alors bien sûr, comme d'habitude, mon propos, ce n'est pas de savoir parmi nous qui a le plus de connaissances bibliques et peut être qualifié de champion dans ce domaine. Mais c'était aussi pour nous faire réfléchir à cette partie de la Bible que nous lisons très peu, que nous, chrétiens évangéliques, nous laissons souvent de côté pour aller vers le Nouveau Testament, vers les évangiles, vers les épîtres de Paul. Mais pourtant, c'est intéressant de lire et de relire ces petits prophètes parce que nous pouvons nous y laisser enseigner par notre Dieu. Nous imaginons qu'ils s'adressaient seulement au peuple d'Israël dans les temps anciens pour les avertir, pour les condamner, les faire revenir dans le droit chemin prescrit par Dieu. Donc, finalement, nous laissons de côté ces textes en considérant que les prophéties qui y sont mentionnées se sont déjà accomplies et qu'ils n'ont plus rien à nous transmettre, si ce n'est que Dieu accomplit toujours ce qu'il a annoncé. Nous connaissons d'ailleurs certaines de ces prophéties qui ont eu un accomplissement avec la venue de Jésus parce qu'ils sont cités dans le Nouveau Testament. Donc, on connaît Michée, on connaît bien Michée. Alors là, je vous ai remis l'ordre chronologique, pardon, j'aurais dû vous le mettre dans les réponses aux questions. Nous connaissons bien Michée, et vous voyez qu'il a prophétisé déjà entre 760 et 681 avant Jésus-Christ. Et ce texte connu, je vous le relis. Dans l'avenir, il adviendra que la montagne sur laquelle est le temple de l'Éternel sera fermement établie au-dessus des montagnes. Elle s'élèvera par-dessus toutes les hauteurs et les peuples y afflueront. Des nations nombreuses viendront et se diront les unes aux autres. Venez, montons au mont de l'Éternel, au temple du Dieu de Jacob. Il nous enseignera les voies qu'il a prescrites, nous suivrons ses sentiers. Car de Sion viendra la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Et il sera l'arbitre entre de nombreux peuples. Oui, il sera juge de puissantes nations, même lointaines. Martelant leurs épées, ils forgeront des socs pour leurs charrues, et de leurs lances, ils feront des fossiles. Plus aucune nation ne brandira l'épée contre une autre nation, et l'on n'apprendra plus la guerre. Chacun habitera en paix sous sa vigne et sous son figuier. Il n'y aura personne qui puisse le troubler. C'est l'Éternel qui a parlé, le Seigneur des armées célestes. Les autres peuples marchent au nom de leur divinité, mais nous, nous marcherons au nom de l'Éternel, lui qui est notre Dieu toujours et à jamais. En ce jour-là, déclare l'Éternel, je rassemblerai les brebis, celles qui boitent et celles qui sont exilées et que j'ai maltraitées. Je ferai de celles qui boitent un reste qui subsistera. De celles qui sont exilées, je ferai un peuple puissant. L'Éternel règnera sur eux, sur la montagne de Sion, dès lors et à jamais. Donc cette prophétie reprise dans le Nouveau Testament nous parle parce qu'elle parle d'un moment dans l'éternité où nous serons de nouveau avec Dieu et où nous serons tous dans la paix. Voilà, nous connaissons Michée. Mais moi, ce matin, je voudrais vous proposer de réfléchir au message apporté par un autre de ses prophètes. Et donc, grâce à Corinne, je vous ai déjà dévoilé de qui il s'agit, c'est le prophète Agée. Et je veux vous montrer que les exhortations qu'il nous apporte sont vraiment actuelles et pertinentes pour nous, croyants du XXIe siècle. Alors, nous n'allons pas lire tout le livre du prophète Agée, bien qu'il soit assez court, il ne contient que 2 chapitres. Mais nous allons simplement lire quelques versets de ce message sur lesquels nous reviendrons au fur et à mesure de notre méditation. Au chapitre 1, les versets 7 et 8. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Réfléchissez donc bien à ce qui vous arrive. Allez à la montagne, rapportez-en du bois et bâtissez le temple. J'y trouverai plaisir, j'y serai glorifié. Déclare l'Éternel. Et le verset 14. Et l'Éternel anima d'un nouveau zèle Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, Josué, fils de Yehotsadak, le grand prêtre, et tout le reste du peuple, de sorte qu'ils vinrent et se mirent à l'ouvrage au temple du Seigneur des armées célestes, leur Dieu. Ensuite, au chapitre 2, les versets 3 à 5. Reste-t-il parmi vous quelqu'un qui a connu ce temple dans son ancienne gloire? Et à présent, comment le voyez-vous? N'est-il pas comme rien aujourd'hui à vos yeux? Mais maintenant, courage, Zorobabel, dit l'Éternel. Toi aussi, Josué, fils de Yehotsadak. Grand prêtre, prends courage. Courage, vous aussi, tous les gens du pays, dit l'Éternel. Mettez-vous à l'œuvre, car je suis avec vous. Voilà ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Selon l'engagement que j'ai pris envers vous, quand vous avez quitté l'Égypte, mon esprit est présent au milieu de vous tous, vous n'avez rien à craindre. Et enfin, deux passages, encore dans le chapitre 2, les versets 18 et 19. Considérez donc attentivement ce qui va arriver à partir d'aujourd'hui et par la suite, c'est-à-dire à partir du 24e jour du 9e mois, jour où l'on s'est mis à rebâtir le temple de l'Éternel. Oui, faites bien attention à ce qui va se passer. Reste-t-il encore de la semence dans vos greniers ? Même la vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier n'ont rien produit. Mais à partir de ce jour-ci, je répandrai ma bénédiction sur vous. Et les versets 21 et 22. Dit à Zorobabel, gouverneur de Juda, j'ébranlerai le ciel, j'ébranlerai la terre, et je renverserai les trônes des royaumes, j'anéantirai la puissance des royaumes païens. Alors, dans un premier temps, j'aimerais vous faire un petit rappel sur le contexte de ces prophéties, et ensuite, nous interrogerons sur la façon dont elles nous parlent encore aujourd'hui. Peut-être qu'en les lisant comme ça, vous redécouvrez, ça ne vous dit pas grand-chose. Alors, voici ce qui s'est passé. Les Juifs du royaume de Juda avaient été déportés à Babylone en 586 avant Jésus-Christ. Cyrus a pris la ville, donc Babylone, comme cela avait été annoncé par les prophètes Jérémie et Ésaïe, et il a pris cette ville, Babylone, en 539 avant Jésus-Christ. Il promulgue alors un édit qui permet aux Juifs de retourner à Jérusalem en 538 pour reconstruire le temple. Ces derniers arrivent à Jérusalem en 537, rétablissent l'autel et offrent des holocaustes à Dieu. Mais ils sont découragés par les attaques de ceux qui voient cela d'un mauvais œil, par la taille plus modeste du temple qui va être érigé. Ils arrêtent leurs travaux durant de nombreuses années, jusqu'à ce que Darius pacifie à nouveau le pays, parce que pendant ces années, il y a des années troubles. À cette époque, les prophètes Zacharie et Agée exhortent le peuple à reprendre la construction du temple. Nous sommes en 520 avant Jésus-Christ et Agée apportera quatre exhortations. Et ce qui est remarquable, c'est que ces quatre exhortations sont précisément datées. Lorsqu'un prophète parle et que c'est rapporté dans la Bible, il est dit « tel a dit », mais on ne sait pas quand. Pour Agée, on connaît exactement le jour où ça a été dit. Il faut simplement convertir les dates qui sont mentionnées dans le texte biblique avec notre système de datation moderne. Quand vous relirez la totalité de ce texte dans votre Bible, vous noterez que dès le début du livre, il est dit « La deuxième année du règne du roi Darius, le premier jour du sixième mois ». Ça ne vous dit rien, moi ça ne me disait rien du tout. Et puis, en lisant les commentaires, j'ai découvert qu'il s'agit du 29 août 520 avant Jésus-Christ. Et dans tout ce que j'ai lu, j'ai trouvé ces dates exactement. Tout le monde est d'accord sur cette datation. Et donc, en lisant que c'est le 29 août 520, j'ai réalisé qu'Agée avait parlé au nom de Dieu il y a très exactement 2545 ans, puisque nous sommes en 2025. Et on est en août. Waouh ! Quelle durée incroyable depuis que ces paroles ont été prononcées. Agée va apporter quatre exhortations qui sont datées entre le 29 août et le 18 décembre. Et ces quelques paroles, parce que c'est deux chapitres, ces quatre messages sur deux chapitres, c'est vraiment pas grand-chose. Ça nous est parvenu. Alors c'est un court laps de temps pour prophétiser, mais ce sont des paroles que Dieu voulait faire voyager à travers les âges pour que nous les entendions maintenant. Alors, ne les mettons plus de côté, s'il vous fallait une raison, en voici une. Dieu lui a mis à cœur d'interpeller le peuple parce que ce dernier se préoccupait plus de ses affaires personnelles que de réparer le temple en ruine. C'est ce qu'on a lu dans les deux premiers textes que nous avons vus. Ça fait 18 ans que les travaux se sont arrêtés dans le temple. Personne ne songe à se remettre au travail. Chacun va qu'à ses affaires pour que sa propre maison soit en ordre. Mon temple est en ruine tandis que vous courez chacun pour sa maison, est-il dit au chapitre 1, verset 9. Et ce n'est pas de simples masures en terre que les Israélites se construisent, mais des demeures lambrissées, est-il dit au verset 4. Pourtant, il semble que les récoltes soient devenues de plus en plus mauvaises, que les arbres ne portent plus de fruits comme avant. Et le prophète montre le lien de causalité entre ces deux situations. Lorsqu'on ne pense qu'à soi-même, finalement, on court de plus en plus et on s'appauvrit. Est-ce que ça ne vous interpelle pas? Est-ce qu'il n'en est pas de même de nos jours? Chacun recherche le bonheur dans des biens matériels. Il n'y a jamais assez, même pour ceux qui ont largement de quoi vivre. Il faut le dernier ordinateur, le dernier smartphone, une nouvelle voiture, plus de vêtements pour rester à la mode. Nous sommes constamment sollicités par notre société de consommation qui nous fait croire qu'il en faut toujours plus. Et les moins bien lotis sont encore plus malheureux parce qu'ils voient tout ce qu'ils ne pourront pas avoir. Mais au final, nous trouvons toujours qu'il nous manque quelque chose. Et nous ne sommes pas satisfaits. Nos maisons regorgent de biens et pourtant ça ne va pas. Je ne peux souvent pas m'empêcher de penser aux frères et sœurs que je côtoyais au Cameroun. Eux, ils n'avaient pas grand-chose. Ils étaient contents de nous laisser le seul matelas qui était dans la maison, là, vous voyez, le beau matelas. Mais ce qui était remarquable lorsqu'on vivait avec eux, c'était leur joie de vivre. Ils remerciaient Dieu chaque jour de leur avoir accordé vie. Ils étaient pleinement conscients à chaque minute que Dieu leur faisait ce don merveilleux de pouvoir encore respirer, sentir le parfum des choses, voir tout simplement le soleil. Je m'en veux souvent parce que, en revenant en France, j'ai peu à peu perdu cette simplicité de vivre. Comme mes contemporains, je me préoccupe de beaucoup de choses qui ne sont pas la maison de Dieu. Je passe à côté de simples bénédictions parce que je souhaite des choses qui ne sont pas indispensables. Et ainsi, à cause de cela, je ne cherche pas ce que le prophète Agé déclare. Allez à la montagne, rapportez-en du bois et bâtissez le temple. J'y trouverai plaisir, j'y serai glorifié, déclare l'Éternel au verset 8. Accordons-nous à Dieu toute l'attention qu'il mérite. Est-ce que nous nous préoccupons de l'état de sa maison? Lorsque nous venons au culte, nous sommes contents de trouver des locaux en bon état et nous apportons nos offrandes pour que ce soit le cas. Mais quelle est notre disposition de cœur? Est-ce pour que Dieu y prenne plaisir? Est-ce pour que lui, il soit glorifié? Alors si je peux me permettre d'insister, parce que j'ai l'intuition que j'en ai déjà parlé, pour de simples choses comme s'inscrire pour le ménage ou s'inscrire pour s'occuper des enfants durant les vacances scolaires, est-ce que nous mettons en premier notre envie d'accomplir une tâche qui peut-être nous paraît subalterne ou notre désir de glorifier Dieu dans sa maison? J'avoue que personnellement, longtemps, je ne me suis pas inscrite pour le ménage dans différentes églises que j'ai fréquentées parce que je ne pensais qu'à moi et à mon manque d'envie de le faire. J'en demande pardon, mon attitude n'était pas correcte devant Dieu. En tout cas, nous pouvons constater que l'exhortation d'Agé a produit du fruit, elle. Puisque la restauration du temple a repris, on voit à la fin du chapitre 1 que Zorobabel et Josué redémarre les travaux et ces travaux vont être achevés en 516 avant Jésus-Christ. La deuxième parole, les versets 2, 1 à 9, c'est une parole d'encouragement. Nous sommes maintenant le 17 octobre, si on reprend la datation moderne de ces messages. Et cette parole prend une forme un peu particulière, mais elle a également trouvé écho en moi. Le verset 3 déclare « Reste-t-il parmi vous quelqu'un qui a connu ce temple dans son ancienne gloire ?» Et vous vous demanderez alors, mais comment est-ce qu'on peut y voir une parole d'encouragement ? En fait, à l'époque, certaines personnes se décourageaient de reconstruire le temple, car les fondations nouvelles qui avaient été posées au retour de l'exil à Babylone étaient celles d'un temple plus petit, moins prestigieux que celui de Salomon. Voilà pourquoi le prophète pose cette question. Mais au moment où il parle, nous sommes plus de 70 ans après le départ en exil. Qui a encore l'âge d'avoir connu ce temple-là, celui de Salomon ? Alors pourquoi se lamenter sur cette ancienne bâtisse ? Il faut travailler maintenant avec ce qu'il y a là sur place, avec les forces qui sont disponibles maintenant. Cela n'enlèvera rien à la gloire de Dieu. Le même amour, le même cœur qu'à l'époque de Salomon guide les ouvriers pour mener à bien cette tâche qui est devant eux, même si les moyens sont moins conséquents. Dieu encourage son peuple. Et dans ce passage, il y a trois fois le mot « courage » dans le verset 4. Et cette affirmation forte à la fin du verset, « Mettez-vous à l'œuvre car je suis avec vous. Voilà ce que déclare le Seigneur des armées célestes. » Est-ce que ça ne fait pas écho à cette affirmation du Seigneur Jésus ? Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde, en Matthieu 28, 20. Nous ne devons pas nous décourager si nos moyens ont diminué, si nous nous sentons faibles pour accomplir l'œuvre que Dieu nous demande, parce que Dieu, il est là, près de nous, avec nous. Notre Église ici au 106 a perdu certains de ses membres il y a quelques mois, en raison de différences de point de vue. Mais ne regardons pas au fait que nous soyons moins nombreux, avec moins de force pour bâtir l'œuvre de Dieu à Clermont-Ferrand. Regardons à Dieu qui nous donne force et courage, comme à l'époque où il a fallu reconstruire le temple de Jérusalem. Le troisième message d'Agée se retrouve au chapitre 2, les versets 18-19. Après ce temps de remise en route et d'encouragement, Dieu promet sa bénédiction. Alors, pour être en état de recevoir cette bénédiction, il faut retrouver un cœur pur devant Dieu. Le prophète utilise alors deux questions pour faire réfléchir les sacrificateurs auxquels il s'adresse à ce sujet. Je vous passe les questions, les réponses, mais il les amène ainsi à reconnaître qu'un morceau de viande consacré ne peut transmettre sa sanctification qu'à un objet qu'il touchera directement. On ne peut pas dire la viande a touché la table et donc la table, je vais la toucher, je serai moi aussi consacré. Non, ça consacre la table, point final. Ça, c'est la loi. Par contre, un morceau de viande souillée va souiller plusieurs autres choses. C'est ce qu'on trouve dans le Deutéronome et toutes les lois d'Israël. Alors on peut le comprendre ainsi, d'une façon imagée. Un bon fruit, vous voyez, il y a une clémentine qui est en bon état là. Ça n'a pas de conséquence sur tout le reste des fruits. Elle reste en bon état pour l'instant. Par contre, les fruits abîmés peuvent gâter tout le reste des fruits. Et vous voyez qu'il y en a déjà pas mal de pourris sur la photo. Donc j'espère que vous comprenez mieux l'image que le prophète nous apporte. Et par cette image, Dieu veut faire comprendre aux Israélites que leur désobéissance et leur mauvaise priorité ont rendu impur à ses yeux tout ce qu'ils faisaient, y compris les sacrifices. Vous retrouverez ça en Agée chapitre 2, le verset 14. Alors, en étudiant cette partie de la prophétie, je me dis que moi j'ai de la chance parce que je vis sous l'ère de la Nouvelle Alliance. Le sacrifice de Jésus sur la croix pour moi, pour nous, nous a purifiés de tout péché, lavés de toutes nos souillures. Alors je n'ai pas besoin de me préoccuper de cette partie de la prophétie d'Agée. Mais pourtant, est-ce que je méprise pas ce salut en me mettant moi-même dans des situations où je risque à nouveau d'être souillé ou de contaminer d'autres? Par exemple, lorsqu'un mari ou une femme laisse errer son regard sur d'autres femmes ou d'autres hommes sous prétexte qu'il faut reconnaître la beauté là où elle existe. Je vous assure que j'ai déjà entendu ça. Et finalement, la personne a succombé à l'adultère. Est-ce qu'il ou elle ne néglige pas ce si grand salut? Et quel exemple pour les jeunes qui voient la chute? D'autres, sous prétexte qu'ils sont pardonnés et rachetés, estiment qu'ils peuvent tout faire, que cela ne regarde qu'eux-mêmes. Et on retrouve ce sujet dans le Nouveau Testament avec la question des viandes sacrifiées aux idoles abordée par l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 8. Ceux-là qui ne sont pas guidés par l'amour envers Dieu et envers les autres, mais qui se laissent guider par leur orgueil, ne vivront pas de belles bénédictions venant de Dieu. Plus, ils risquent de détourner d'autres de leur Seigneur. Oui, même encore aujourd'hui, à tous, il nous faut revenir avec un cœur pur vers Dieu, et sa promesse de bénédiction est alors aussi pour nous. Le dernier message que Dieu a voulu transmettre au peuple a été promulgué le même jour que le troisième, et ces deux messages ont été promulgués le 18 décembre. Donc ça a commencé en août, ça a fini en décembre, et après, âgé, on n'a plus rien à son sujet. Ce message s'adresse à Zorobabel. Zorobabel, il a été l'instrument dans les mains de Dieu pour amener le peuple à obéir à ses prescriptions, aidé par les oracles de Zacharie et d'Agé. Les paroles qui lui ont été adressées ont une portée prophétique, reconnue par nombre de commentateurs bibliques. Alors, pour être plus clair, Zorobabel, c'était un descendant de David, puisqu'il est de la tribu de Juda. Et à ce titre, par son obéissance, il est une figure du Christ dans cette prophétie. Dans ce dernier passage, il est question d'un bouleversement universel avant que le Seigneur établisse son royaume. Agé, en s'adressant à Zorobabel de la part du Seigneur, lui dit, le désigne comme « mon serviteur ». C'est un titre qui est fréquemment utilisé pour le Messie. Cette dernière prophétie ne concerne donc pas seulement des promesses faites à un homme pour son époque, mais elle concerne aussi les temps à venir, le rétablissement du royaume de Dieu pour l'éternité. Ceux qui croient en Jésus-Christ ont toutes les raisons d'être encouragés par cette prophétie. À la fin, Christ règnera en roi des rois et seigneur des seigneurs sur tous ceux qui croient en lui. Notre tâche consiste à persévérer dans l'œuvre qu'il nous a appelés à accomplir. Alors, en conclusion, j'aimerais vous lire ces quelques paroles de Francis Bayet dans son livre « Connaissez-vous les petits prophètes ?» Entre parenthèses, ce livre est disponible, quand je l'aurai rendu, parce que j'en ai encore besoin, à notre bibliothèque. Donc, écoutez ce que Francis Bayet déclare. En toute chose, le Seigneur doit avoir la première place. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, dit Jésus. Hélas, il n'en est pas souvent ainsi dans l'Église et dans nos vies. L'apôtre Paul l'avait constaté. Tous cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Philippiens 2:21. Les affaires du Seigneur sont négligées. Nous nous occupons d'abord de nos propres affaires et non de celles de notre Père céleste. Dieu n'a pas besoin de notre argent. L'or et l'argent sont à lui. Agé 2:8. Mais nous perdons la bénédiction en donnant trop peu pour son œuvre. Dieu n'a pas besoin de serviteurs, il peut se passer de nous. Pourtant, il nous offre le privilège de le servir. Le comprendrons-nous? L'Église a besoin d'un réveil. Dieu veut le donner par le Saint-Esprit. Voulons-nous prier pour qu'il le donne et nous mette, dès maintenant, à l'écoute de sa parole, qui nous dit à tous, comme du temps d'Agé, « Bâtissez ma maison, j'en aurai de la joie et je serai glorifié. » Dieu veut nous utiliser dans son œuvre. Malgré notre faiblesse, nous pouvons avoir l'assurance de réjouir son cœur et de glorifier son nom. Je vous invite à prier. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole.